ce soir, qui veut la peau du paritarisme ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La CGT va-t-elle conserver sa première place ou sera-t-elle doublée par la CFDT ? C'est une des questions posées par les élections professionnelles dans les TPE, les très petites entreprises, qui se déroulent jusqu'au 13 janvier prochain. Autre interrogation, celle du niveau de participation, qui en tout état de cause sera faible. Il n'était que de 10,38% en 2012. Peu fréquentées, ces élections sont pourtant loin d'être inutiles. Elles aident à mesurer la représentativité globale des syndicats. Et pour la première fois cette année, elles vont permettre d'installer les commissions paritaires régionales, de nouvelles instances du paritarisme adaptées au format des petites entreprises. Alors à ce sujet, n'est-il pas anachronique de vouloir renforcer le paritarisme à un moment où celui-ci semble plutôt avoir atteint ses limites ? Avec la loi travail par exemple, il est désormais possible de le contourner via les référendums d'entreprise. La disposition vient d'entrer en vigueur. Quant aux négociations nationales, terrain d'exercice le plus médiatisé, elles n'avancent plus, échec des discussions sur le dialogue social ou encore sur l'assurance chômage. Pour l'Institut de l'entreprise, qui publiait une note à ce sujet à l'automne dernier, c'est le signe que le paritarisme à la française n'est plus adapté à la réalité économique. Alors qui veut la peau du paritarisme ? C'est la question que nous allons poser ce soir à l'auteur de la note publiée par l'Institut de l'entreprise, à savoir Jean-Charles Simon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous êtes le président fondateur de Stacian, qui est une société d'intelligence statistique. Vous connaissez bien le paritarisme, puisque vous avez été autrefois directeur général délégué du MEDEF. Et donc la note que j'évoque et qu'on peut trouver assez facilement sur Internet s'appelle « Faut-il en finir avec le paritarisme ?» Pour discuter avec vous, quelqu'un qui hochait la tête pendant ma présentation, c'est Véronique Descac. Bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire générale adjointe de la CFDT, très investie dans les discussions sur la loi travail. C'est au moment où j'évoquais le référendum d'entreprise comme contournement du paritarisme que manifestement vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Bon, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter. Vous étiez il y a quoi, moins d'une heure au siège du MEDEF, c'est ça ?
Absolument, en train de préparer le diagnostic qui doit nous permettre de reprendre les négociations sur l'assurance chômage.
Qui devrait reprendre à quel moment ces négociations sur l'assurance chômage ?
On saura en février si ces négociations reprennent, si le diagnostic justement nous a permis de dresser les pistes qui permettent la reprise de la négociation.
Ou bien s'il faut peut-être plutôt attendre que la présidentielle et législative soient passées pour y voir aussi un peu plus clair sur le plan politique ?
Le problème ne vient pas tellement justement du côté politique, mais plutôt du côté du patronat qui jusqu'alors n'avait pas de mandat pour entrer dans cette négociation. Donc la question sera de savoir si en février, ils auront suffisamment d'éléments pour avoir un mandat.
Bon, on verra ça. Troisième invité, Jean-Marie Pernaud, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur associé à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, ainsi qu'au Centre d'Histoire Sociale, spécialiste du syndicalisme français. Vous aviez publié en 2010 chez Gallimard, « Syndicat, lendemain de crise, une interrogation » dans ce titre. Peut-être d'ailleurs que pour bien comprendre le sujet de ce soir, faut-il passer par un petit effort de définition rapide quand même du paritarisme. Jean-Marie Pernaud, est-ce qu'on peut dire que le paritarisme c'est à la fois un lieu de discussion et de négociation, alors à égalité entre représentants syndicaux et représentants patronaux, que ce soit au niveau national, au niveau des branches ou au niveau des entreprises, mais c'est également un mode de gestion paritaire de certains organismes. Est-ce que ça permet ça de définir de manière à peu près correcte ce qu'est le paritarisme ?
Oui, bon, c'est un terme un peu passe-partout en réalité qui désigne des formes multiples, assez empiriquement construites d'ailleurs. Il n'y avait pas d'idée, l'idée du paritarisme est ancienne, elle date de l'avant-guerre, et comme d'ailleurs il est dit dans le rapport de M. Simon, c'est plus une invention patronale que d'origine salariée. Mais ça a désigné des formes diverses au cours de l'histoire. Je pense qu'il faudrait déjà le distinguer de la négociation collective. Ce sont deux histoires différentes, et je pense d'ailleurs, y compris dans le propos dont nous partons ce soir, il y a une confusion qui est faite, peut-être volontaire d'ailleurs, entre tout ce qui relève du champ de la négociation collective et le paritarisme. C'est pas tout à fait la même chose. Dans les branches, le paritarisme il existe dans certaines institutions créées dans certaines branches, mais la négociation de branche elle-même ne présuppose pas la présence conjointe paritaire des représentants. Donc on est dans deux processus relativement différents, même si effectivement Dans les institutions paritaires, beaucoup aussi d'aspects de négociation qui se font. Mais je crois qu'il est important de distinguer, c'est un mot fétiche qu'on jette un peu comme ça, mais ça désigne des formes multiples de régulation, très différentes les unes des autres. Entre l'assurance maladie et les caisses de retraite complémentaires, c'est pas du tout le même type de paritarisme.
Voilà, alors ce soir, on va quand même essayer d'englober tout ça dans la réflexion autour de l'avenir du paritarisme, en tout cas du paritarisme à la française. Que vous définissez, vous, Jean-Charles Simon, à travers, alors notamment, une de ses fonctions qui est celle de la production de normes. Et si je vous ai bien lu, j'ai l'impression que vous considérez que c'est un pouvoir qui est un peu trop important, voire exorbitant, qui est accordé aux partenaires sociaux, dont vous dites qu'ils produisent beaucoup de normes, et en plus ça contribue à une très forte complexification du droit du travail et à sa rigidification.
En tout cas, je suis d'abord tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y a pas de définition absolument arrêtée et faisant autorité de manière définitive de la question. Comme ça a pu être dit, c'est avant tout un usage d'un terme qui porte sur un champ assez mouvant selon les personnes qui l'évoquent. J'ai en effet, pour ma part, pris une acception assez large pour essayer d'englober en fait tout ce qui impliquait d'une manière, on va dire, institutionnelle, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales et les organisations de salariés. Donc c'est ça qui m'a intéressé, y compris quand parfois d'ailleurs elles sont seules dans un coin, puisque je suis allé très très loin dans ce champ de définition, c'est-à-dire quand des syndicats gèrent seuls, le patronat gère seul certaines instances, etc. J'ai également retenu ce champ pour essayer de regarder quelle était en fait finalement leur influence et leur poids.
Et donc ce qui les conduit à produire des normes.
Voilà. Dans ce qui est de la construction normative, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, avant de porter un jugement de valeur, c'était de signaler que dans un pays réputé très jacobin, il y avait eu un espace dévolu aux partenaires sociaux qui est très très large et qui a eu tendance à s'accroître dans certains domaines, à se réduire dans d'autres. Hein. Il faut dire que par exemple dans la sécurité sociale, les réformes de 95 ont plutôt réduit le champ. Mais effectivement, dans ce qui est du droit du travail, avec notamment la loi Larcher de 2007, il y a eu cette idée qu'en fait, et c'était quelque chose qui germait depuis pas mal d'années, il y a eu, et des deux côtés d'ailleurs de l'échiquier politique, il y a eu cette idée qu'il fallait donner une forme de primat aux partenaires sociaux pour discuter des sujets avant de voir si ils étaient en capacité de négocier, et s'ils avaient réussi à négocier, qu'ils soient repris dans le résultat de leurs négociations assez fidèlement. Donc, assujettissait un peu la démocratie politique à la démocratie sociale de ce point de vue-là.
Alors, allons quand même un peu dans le jugement de valeur, Jean-Charles Simon, puis après on va donner la parole à Véronique Descac. Mais est-ce que vous considérez, vous, qu'on a donné trop de pouvoir normatif, justement, aux partenaires sociaux, et que c'est ce trop plein de pouvoir qui expliquerait un certain nombre de rigidités aujourd'hui du tissu économique français ?
Oui, je considère qu'en fait, on est sur un modèle social qui a besoin d'être réformé en profondeur et que, à mon sens, seul l'État est en capacité, avec un mandat politique évidemment fort, on a vu dans le cas de la loi travail, quand il n'a pas vraiment de mandat politique, que c'est évidemment très compliqué d'agir, mais avec un mandat politique, d'agir, de réformer et de mener les changements en profondeur. Je pense que les partenaires sociaux peuvent certes discuter d'aménagements qui peuvent être très bons parce que connaissant le terrain dans des points précis, mais qui ne sont pas en capacité d'une réforme de structure. Et que ces réformes de structure, il faut qu'effectivement l'État les mène. Et j'observe que, y compris dans des pays voisins qui ont une forte tradition du dialogue social, c'est l'État qui a pris le pas. Je pense évidemment notamment aux réformes Hartz sous Gerhard Schröder. C'est l'État qui a pris le pas pour mener la réforme sociale quand il fallait faire une réforme de structure.
Alors là, on est vraiment dans une remise en cause de fond de la nature du paritarisme français, Véronique Descac. C'est-à-dire de dire que, finalement, il vaut mieux confier ces choses-là à l'État plutôt qu'aux partenaires sociaux.
Alors, moi, je trouve au contraire que le paritarisme ou le dialogue social, puisque c'est de ça dont il est question là maintenant, c'est plutôt une idée extrêmement moderne, à la fois une idée qui vient de loin dans l'histoire, hein, puisque Jean-Marie Pernaud a dit ça vient du 19e siècle, c'est né en Allemagne d'ailleurs, au 19e siècle, et puis c'est une idée qui a été renforcée encore en 2008, donc au travers de la loi Larcher, comme il vient d'être dit. L'idée, c'est quoi ? C'est que pour construire un contrat social qui soit durable, il faut mettre dans le jeu de la création de ces fameuses règles, ce que vous appelez le normatif, il faut mettre en jeu les gens qui utilisent ces règles ou qui les vivent. Et pour nous, la légitimité du dialogue social et du paritarisme, c'est bien le fait que dans un certain nombre de champs, ceux qui sont celui de l'activité économique et celui du travail, eh bien, les entreprises d'un côté, les salariés, leurs représentants de l'autre, sont les plus légitimes à dire ce qui fonctionne bien pour eux, ce qui est utile pour eux, ce qui est pertinent pour faire fonctionner à la fois l'activité économique et aussi le contrat social. En gros, et d'ailleurs ça, je pense que tous les organismes, y compris internationaux, même les plus stricts économistes libéraux le disent, la performance d'un pays, la performance économique et la performance sociale d'un pays, elle dépend aussi beaucoup de la qualité du dialogue social. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut du dialogue social et ça veut dire qu'il faut être vigilant à sa qualité et à le faire évoluer pour que sa qualité demeure.
Oui, parce que si les partenaires sociaux usent de cette légitimité pour, alors là je vais reprendre les mots de la note de Jean-Charles Simon, contribuer à la complexification et à la rigidification du droit du travail, est-ce que ce n'est pas le signe que si légitimité il y a, en tout cas elle fonctionne mal?
Alors moi je crois précisément que c'est au moins ces 10 dernières années en France, on a fait la démonstration du contraire. C'est-à-dire on a fait la démonstration qu'on était capable de faire évoluer en profondeur le dialogue social, par exemple en réformant les règles de la négociation collective et de la représentativité. On ne va pas rentrer dans des considérations un peu techniques et complexes, mais par exemple, avant 2008, les organisations syndicales jouissaient, c'est vrai, d'un truc un petit peu bizarre. C'était ce qu'on appelait la présomption de représentativité. La présomption, enfin, c'était la loi qui disait telle organisation, c'est représentative. Nous avons su, nous, les partenaires sociaux, et en particulier la CFDT et la CGT, dans une position commune, dire il faut arrêter avec ça. Puisqu'on fait beaucoup de normes, effectivement, il faut qu'on soit légitime démocratiquement. Donc on va demander à ceux qui édictent la norme de mesurer leur représentativité par l'élection. Donc le reproche qui est souvent fait, il représente personne, etc., est absolument faux. On représente des gens et on peut le mesurer par l'élection. Et il y a beaucoup plus de salariés qui votent aux élections professionnelles que d'électeurs d'ailleurs qui votent dans le champ politique. Et on va en plus conditionner la validité d'un accord au fait qu'il recueille la signature d'organisations qui représentent 30% en 2008, 50% depuis le 1er janvier. Il faut représenter 50% des salariés pour signer un accord valide.
Jean-Marie Pernaud.
Oui, il y a bien un problème d'articulation du politique au social dans la question de la production des normes sociales. Et c'est vrai que la loi Larcher a introduit une innovation. Mais enfin, il faut quand même tenir compte des contextes d'une histoire dans laquelle, l'histoire longue, dans laquelle en France, c'est l'État qui est le producteur de la règle. Et on pourrait même quand même... Comment arrive cette loi Larcher? Elle arrive en 2007. Elle vient à la suite du CPE, de l'épisode du CPE qui avait mis la moitié du pays dans la rue pendant 3 mois. Vient d'un projet qui sort comme ça d'un cabinet d'un Premier ministre et qui tombe comme ça, sans consultation ni du ministère du Travail d'ailleurs, ni même de la représentation nationale, puisque ça vient comme un amendement du gouvernement contre sa propre majorité. Résultat, une règle complètement inapplicable, enfin qui serait inapplicable si ce n'est les règles internationales du travail, puisque le BIT a fini aussi par donner son avis quelques mois après. Donc on s'est dit quand même que ça serait pas forcément idiot de préparer les lois sociales à partir d'un débat préalable entre ceux dont c'est un peu l'objet de les connaître. C'est-à-dire que c'est plus efficace, d'un point de vue, on peut même parler d'efficience sociale, de faire préparer en amont le travail social.
Après, à condition qu'il puisse y avoir des compromis.
Bien sûr. Alors, à condition qu'ils y arrivent. Il y a certaines circonstances où ils n'y arrivent pas. Et moi, je suis toujours sceptique quand on me dit qu'une négociation a échoué sous prétexte qu'on s'est pas mis d'accord. Je pense qu'en 2015, par exemple, l'échec de la négociation sur les institutions représentatives du personnel vient du fait que les employeurs voulaient la peau des CHSCT. Aucun syndicat n'a accepté ça. Donc, comme le patronat n'a pas fait le compromis nécessaire pour qu'il en soit pas ainsi, on est arrivé à un désaccord. Ça ne ruine pas la logique des accords. On peut se revoir. La vie est faite de remises sur le chantier comme ça. Donc, il n'y a pas de dramatisation à faire. Et je ne crois pas du tout que l'État ait renoncé à travers cette loi Larcher. Enfin, la loi sur les retraites de 2010, où est-ce qu'elle a été négociée avec les syndicats? À un moment donné, le pouvoir politique a jugé que la loi travail a été par-dessus la règle Larcher. D'ailleurs, un syndicat a d'ailleurs attaqué au Conseil constitutionnel là-dessus. Donc, l'État n'est pas du tout prisonnier de ces règles-là. Il peut juger utile et la représentation nationale garde la main sur la décision finale. Le Parlement n'a pas renoncé à l'amendement de textes qui viennent du débat social. Je trouve que c'est un peu caricatural. Mais je voudrais dire surtout que je pense qu'il y a dans votre note, il y a une inversion de perspective. C'est-à-dire, je pense que derrière tout ça, il y a la la main très visible de l'État. Enfin, quand on regarde comment ça se déroule depuis 2008, même ces conférences sociales où le gouvernement donnait, un, les thèmes à négocier, deux, le calendrier, trois, ce qu'il attendait comme décision, et en rajoutant que si c'était pas ça qui sortait de la négociation, le gouvernement prendra ses responsabilités, je suis désolé, on est quand même très très loin d'un renoncement du gouvernement devant les partenaires sociaux. Au contraire, je considère qu'il continue à garder la main bien visible.
Alors Jean-Charles Simon, et après je vous demanderai peut-être pour les prochaines interventions d'être un petit peu plus court les uns et les autres pour qu'on soit vraiment dans la discussion.
Non, deux choses. D'abord, la loi travail, il y a eu une tentative de négociation qui n'a pas réussi. Donc il y a eu un débat et il se trouve qu'il y a eu un échec. Donc l'esprit de la loi Larcher, je pense, était respecté. Effectivement, Force Ouvrière n'est pas d'accord et considère que il y a matière à contestation. Mais fondamentalement, si vous laissez l'esprit plutôt qui est donné à ça et qui a fait que, notamment d'ailleurs à cause de l'épisode des 35 heures qui a été vécu un peu comme un passage en force, notamment pour le financement des 35 heures par la Sécurité sociale ou les organisations sociales, la CFDT d'ailleurs notamment parmi d'autres, mais un peu en pointe, ça avait trouvé que la méthode n'était pas bonne et donc qu'il fallait mieux respecter le dialogue social au niveau interprofessionnel. Cela, je voudrais faire une distinction majeure. On parle là du niveau interprofessionnel et du niveau des branches qui pour moi est complètement dans le champ du paritarisme institutionnel. Il n'est pas du tout écarté ou alors vraiment là on restreint beaucoup, me semble-t-il, le champ du paritarisme si on ne met pas la production de conventions collectives dans le champ. Il faut distinguer cela et la vie des entreprises. Et ça, la vie des entreprises que l'État, et c'est un peu l'esprit de la loi travail, et j'espère que ce sera l'esprit de choses qui iront plus loin que la loi travail, qu'on laisse plus de capacité, justement avec une loi un peu moins coercitive et surtout moins de texte entre la loi et la vie de l'entreprise, qu'on laisse dans l'entreprise les représentants des salariés et l'employeur définir un cadre qui leur soit propre et qui leur convienne, ça c'est tout à fait utile, c'est même indispensable et c'est même là où c'est le mieux.
Le vrai Donc problème, le paritarisme, vous dites oui, mais
problème,
ça dépend quel niveau.
Le niveau institutionnel, interprofessionnel et le niveau professionnel qui me semble totalement défectueux et je suis en désaccord évidemment et sur la question de la représentativité des acteurs qui a été évoqué, et sur la question de l'efficacité et de ce qui a été produit, y compris dans les 10 dernières années.
Alors ce niveau institutionnel à la CFDT, vous a priori, vous y êtes plutôt favorable, et on comprend pourquoi, en lisant la note de Jean-Charles Simon, qui vous consacre un petit paragraphe, en disant « Depuis au moins une vingtaine d'années, la centrale cédétiste, la CFDT donc, est idéalement placée pour dérouler son agenda revendicatif et édifier une construction normative favorable à sa vision politique. » C'est vrai que vous avez une forme de centralité aujourd'hui dans les négociations qui font que quoi que vous faites, finalement, la pluie et le beau temps, c'est un petit peu ce que dit Jean-Charles Simon, Véronique Descac.
Non, mais là aussi, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'il se trouve que les salariés ont décidé de voter assez majoritairement pour la CFDT. Vous avez parlé tout à l'heure des élections dans les TPE. Les résultats des élections dans les TPE vont venir s'ajouter aux résultats des élections dans les entreprises. Il se trouve que la CFDT est déjà la première organisation syndicale de salariés dans les entreprises du privé. Donc ça paraît, du coup, si on est véritablement attaché aux principes démocratiques, assez normal que la CFDT soit centrale dans les discussions, dans les négociations, et du coup pèse beaucoup. Et ça me paraît plutôt sain du point de vue de la démocratie.
Mais je voudrais revenir... La CFDT, qui d'ailleurs est rarement présentée comme un syndicat particulièrement conservateur. On est plutôt là dans le réformisme, en général, Jean-Charles Simon, juste parce
mais moi,
vous parlez de conservatisme du paritarisme. Si la CFDT est si puissante que vous le dites... Finalement,
et apporter beaucoup de réformes.
On pourrait considérer que ce paritarisme est un paritarisme qui réforme.
Eh bien, écoutez, pour moi, c'est en effet, je rends hommage à la CFDT parce que je pense qu'elle a la vision, la force interne, la force militante interne que, effectivement, n'ont pas d'autres centrales, que n'ont pas non plus des organisations patronales. Et comme en France, on a un jeu tout à fait singulier avec 5 syndicats représentatifs au niveau national. Et du coup, le point moyen, effectivement, pour les politiques, c'est pas entre le patronat et les syndicats, c'est du côté syndical, le point qui est vu comme le syndicalisme progressiste et donc incarné par la CFDT. C'est comme ça que ça s'organise. Moi, je pense que bien que je lui rende hommage sur sa vision et sa construction et sa détermination, je trouve que ce qu'elle a rapporté, ce qui pour elle est un champ de réforme apporté, est un champ pour moi de conservatisme d'un modèle social, en effet inadapté aux mutations économiques.
Pour moi, évidemment, c'est le contraire, puisqu'on peut démontrer facilement que ces dernières années, on a fait beaucoup de réformes, et que ces réformes, elles ont apporté des droits nouveaux pour les salariés. Beaucoup de droits nouveaux, plus adaptés à la nouvelle situation, par exemple, du marché du travail. Quand on crée les droits rechargeables à l'assurance chômage, quand on crée la généralisation de la complémentaire santé, on voit bien que là, on crée des droits nouveaux qui sont vraiment très en phase avec l'évolution de la situation économique, avec l'évolution de la précarité, avec l'évolution des parcours professionnels, plus hachée, plus accidentée. Alors, je comprends que, du point de vue de Jean-Charles Simon, qui a une vision extrêmement libérale, en fait, tout à l'heure, Jean-Marie Pernaut a employé le mot de régulation. Il a dit, le paritarisme, c'est une modalité de régulation. Jean-Charles Simon, il est contre toute forme de régulation. Il s'en prend aujourd'hui au paritarisme, en faisant semblant de croire que l'État ferait mieux, mais après, une fois qu'il aura tué le paritarisme, puisque c'est ça son propos, il faudra s'en prendre à l'État. Donc, c'est bien le sujet de la régulation. Quelle est la meilleure forme de la régulation dans une société? Moi, je pense qu'elle vient d'une bonne articulation entre l'intervention de l'État et l'intervention du dialogue des corps intermédiaires.
Pour qualifier le travail, enfin, en tout cas, le paritarisme à la française, Jean-Marie Pernaut, quel qualificatif vous utiliseriez-vous? Conservateur, réformiste, régulateur, comme peut-être oui.
Bon, c'est des catégories toujours un peu contestables. Moi, je continue à penser que l'État garde la main dans la plupart, y compris des grands accords, et que très souvent, ce rôle central de la CFDT, il est lié aussi avec une certaine proximité idéologique avec le pouvoir politique en place. Pas toujours.
Ah bon? Même quand il change?
C'est bizarre. Voilà. Non, mais c'était l'amendement que je voulais faire. Mais bon. Au cours des 4 ou 5 dernières années, il y avait une homologie de pensée qui permettait que ça se déroule de cette manière. C'était pas vrai sous le régime antérieur.
Et d'ailleurs, les 15 dernières années, on a mené des réformes, quelle que soit la couleur du gouvernement en place.
Et d'ailleurs, la CFDT n'a pas été d'accord avec toutes les réformes gouvernementales, je pense. Donc, ce n'est pas du tout une mise en cause. Mais je crois que ça, cette proximité a pu exister.
Et après, et le fait que l'État soit toujours très présent, vous y voyez une forme de dysfonctionnement, justement, du paritarisme?
Non, mais enfin, écoutez, on ne vit pas dans l'éther, on vit aussi dans l'ambiance des idées politiques. Et je sais bien qu'il y en a qui trouvent que c'est déplaisant, qu'il y ait des enjeux politiques à travers les enjeux de régulation sociale, mais ça renvoie bien quand même à des visions du monde social. Et ce n'est pas très étonnant. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout injurieux de dire que tel syndicat se retrouve plutôt dans une certaine conception de la régulation sociale, là où d'autres, c'est ce qui justifie d'ailleurs la dissémination syndicale française. Donc je crois qu'on a affaire quand même à travers cette note, effectivement, à une vision extrêmement radicale des transformations à entreprendre, mais Jean-Charles Simon ne s'en masque pas, il parle bien d'ailleurs d'une adaptation plus radicale aux réalités économiques mondiales. Il défend les positions de la FFSA, y compris dans sa critique de la Fédération des sociétés d'assurance, y compris dans sa critique du reste des organisations patronales d'ailleurs, et qu'on a retrouvé, on connaît les positions de Denis Kessler, avec qui il a certainement plus que des proximités de hasard. Hein, l'idée, c'est bien de revenir sur le modèle qui a été mis en place en 1945 et qui faisait de la démocratie sociale un bien commun, partagé et à construire à travers les institutions de la sécurité sociale qui se sont mis en place. Donc c'est un programme de défaisance du système social français qui ne se cache pas. Hein, là-dessus, il faut lui reconnaître cette clarté. Hein, mais qui peut effectivement ne pas être partagé.
Il faut aussi vous reconnaître, Jean-Charles Simon, le fait que vous ne vous en prenez pas qu'aux organisations de salariés, mais aussi, et peut-être d'ailleurs en premier lieu, aux organisations patronales. Vous leur reprochez quoi? Une forme de complicité et dans le conservatisme, justement, autour du droit du travail, parce que, alors vous mettez notamment en avant le fait qu'elle manque de représentativité. C'est ce qu'on reproche aux syndicats de salariés. Taux de syndicalisation 11%.
Hein, c'est global. C'est encore plus faible dans le privé, c'est 8,5% dans le privé.
Problème de représentativité également pour les organisations patronales.
Avec au plus un quart des entreprises qui adhèrent et qui souvent, c'est ce que je note, en fait adhèrent à leur insu. Parce qu'elles adhèrent à une fédération professionnelle pour des questions de métier, parce que dans plein de métiers, si vous adhérez pas à votre syndicat professionnel, ben vous avez des droits en moins, vous avez des problèmes de reconnaissance par vos créanciers, vos clients, etc.
La carte professionnelle
et donc,
aussi.
Et voilà, et donc vous adhérez. En fait, il y a une grande tradition corporatiste pour aller encore beaucoup plus loin que la construction du modèle social français qui effectivement lui remonte aux années 30-40 entre les constructions et même un peu avant, mais en tout cas voyez, les grandes lignes d'aujourd'hui elles datent de cette période-là. Le patronat, lui, il est organisé dans le paritarisme, dans le corporatisme depuis l'ancien régime. Et c'était quelque chose de très structurant. D'ailleurs, il faut se souvenir que la loi Le Chapelier, c'est une loi très libérale sous la Révolution qui n'est pas du tout une loi contre les syndicats, parce que la notion même n'existait pas vraiment de salariat à l'époque. C'est au contraire pour libérer les travailleurs et les entreprises de quelque chose qui était les corporations.
Ça, c'est le 18e siècle, au 21e siècle.
Mais je vais vous dire, quelque part, ça continue.
Est-ce qu'il faut comprendre que pour vous, en tout cas, les représentants patronaux patronaux aujourd'hui sont des gens qui sont aussi, d'après vous, hein, bien sûr, Jean-Charles Simon, déconnectés de ce qu'est la réalité économique. Alors, aujourd'hui. Et qu'ils auraient aussi intérêt finalement, à avoir cette forme de statu quo avec des petites réformes de temps en temps.
Oui, alors, il y a une notabilité, mais ça existe dans toutes les organisations et dans tous les systèmes. Je ne vais pas faire de reproches particuliers aux organisations et aux partenaires sociaux sur le sujet. Forcément, toute organisation développe une notabilité interne qui fait qu'elle est attachée au maintien de l'existant et des mandats, en l'espèce, dans le paritarisme. Ça, on l'a vu dans plein d'histoires et dans plein de cas particuliers d'histoire récente du paritarisme. Mais moi, je crois que dans le patronat, si vous voulez, il y a encore une école très forte pour laquelle il faut tempérer la concurrence. La concurrence, ce n'est pas quelque chose de bon, ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser vivre pleinement, et c'est quelque chose de très fort qui est que je reconnais comme un débat de fond. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est illégitime, c'est une autre vision que la mienne. C'est une vision où, notamment, et je pense que c'est très négatif pour les petites entreprises françaises, il faut un cadre tout à fait commun pour éviter ce qu'on appelle le dumping social et le fait que des entreprises ont des cas très différents alors qu'elles appartiennent au même métier.
Est-ce que vous partagez ce constat, Jean-Marie Pernaud ?
Je pense que vous faites une erreur d'analyse totale sur la qualification des accords de branche. Vous dites qu'ils sont faits pour éviter la concurrence. Ils ne sont pas faits pour éviter la concurrence. Ils sont faits pour éviter qu'elle ne s'exerce sur un certain nombre de droits des travailleurs. Parce que lorsqu'on a fait le choix de placer dans la branche un certain nombre de garanties sur les déroulements de carrière, sur les salaires minimums, sur les droits à congé, sur un certain nombre de choses, maintenant sur la formation professionnelle, ça veut dire que les entreprises sont invitées à exercer entre elles leur concurrence sur la qualité de ce qu'elles fabriquent, sur les marchés sur lesquels ils pourront être innovants, sur les services associés à leur production, c'est-à-dire sur la qualité de ce qu'ils font. Et c'est grâce à cette règle qu'on a pu monter en gamme les productions économiques et industrielles. En Allemagne, je suis désolé, les règles de branche sont extrêmement strictes. Et vous pouvez pas dire que dans ce système-là, la concurrence ne s'exerce pas. Quand on sanctuarise des droits au niveau des branches, on invite les entreprises non pas à ne pas faire de concurrence, mais à ne pas le faire sur le dos des travailleurs. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui a fait consensus très longtemps entre une partie du patronat, l'aile modernisatrice du patronat, qui acceptait tout à fait que les entreprises se débrouillent pour être performantes, y compris avec un coût salarial élevé. Et il y a des pays qui ont parfaitement réussi. L'Allemagne a des coûts salariaux, notamment dans l'industrie, qui sont au moins équivalents aux nôtres et qui réussissent parfaitement là où les entreprises françaises peinent à se déployer à l'international.
Erling Descac.
Oui, c'est tout à fait juste ce qui vient d'être dit. Il s'agit dans la branche d'éviter que la concurrence se fasse sur le dos des salariés. Mais je voudrais rajouter une autre chose. Je pense que dans la branche, le patronat français a une énorme responsabilité à ne pas savoir organiser la coopération entre les grandes et les petites entreprises. On nous renvoie souvent ça. Cette idée que, certes, le syndicalisme dans les grandes entreprises, c'est bien, mais que dans les petites, ça serait un frein. Moi, je pense au contraire que d'abord, c'est constitutionnel, tous les salariés doivent avoir une représentation du personnel. Mais je pense surtout que ce qui constitue un frein au développement des PME dans notre pays, c'est le fait que ces PME, elles n'aient pas accès à des services, par exemple, de gestion des ressources humaines auxquels ont accès les grandes entreprises. Et je pense que c'est la coopération, et la branche devrait être un outil pour faire ça, entre les grandes et les petites entreprises, qui devrait permettre de réguler aussi la concurrence et de permettre une meilleure performance économique, et que une représentation du personnel pour l'ensemble des salariés de toutes les branches, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est vraiment un enjeu de modernisation de notre pays.
Alors c'est un enjeu, mais c'est aussi un coût, en tout cas ça a un prix, d'organiser cette représentation du personnel et d'organiser justement ce paritarisme. Et comme l'heure tourne très vite ce soir, je voudrais qu'on avance aussi un petit peu dans la réflexion qui est la vôtre, Jean-Charles Simon, qui est de dire que les problèmes finalement de représentativité que peuvent avoir et les organisations de salariés et les organisations patronales sont d'autant plus embêtants que le paritarisme français coûte très cher, et vous allez jusqu'à remettre en cause le fait, par exemple, que les entreprises aujourd'hui financent les vacances, les chèques cadeaux de fin d'année, les activités culturelles, ce genre de choses.
Franchement, sur la question des CE, je ne fais que d'évoquer d'une phrase, et c'est pas du tout un sujet central pour moi. Je trouve juste qu'il faudrait qu'il y ait plus de liberté en la matière, et je comprends pas pourquoi on met un taquet aussi important en matière de dépenses minimum que l'entreprise l'entreprise doit faire pour financer le CE. Mais ce n'est pas du tout un sujet central pour moi, ni même d'ailleurs le coût du paritarisme proprement dit. Je sais qu'il y a d'autres organisations, puisque je suis le méchant libéral ici, il y en a d'autres qui sont complètement omnibulés par cette question-là, le coût des organisations.
Vous dites quand même qu'on fait peser sur l'ensemble des salariés et l'ensemble des entreprises le coût de paritarisme de gens qui finalement ne représentent pas grand-chose en dehors d'eux-mêmes.
C'est un vrai sujet, c'est un sujet de principe pour moi. Il y a des organisations d'ailleurs pour lesquelles c'est beaucoup plus vrai que d'autres, celles qui sont les moins représentatives, comme par hasard. Mais ce n'est pas tellement la question centrale, c'est une question d'éthique et de principe, mais ce n'est pas la question économique centrale. Moi, la question économique centrale, c'est celle qui a été balayée là, par mes deux interlocuteurs aujourd'hui, et qui est pourtant fondamentale et qui me semble indéniable, c'est que le modèle social français part... la construction étatique et de branches et interprofessionnelles coûte extrêmement cher aux entreprises. C'est le pays qui a le plus de prélèvements sociaux sur le travail, qui est champion des dépenses sociales obligatoires. Et quand j'entends que la complémentaire santé est obligatoire dans toutes les entreprises, c'est un progrès vraiment les bras m'entombent, parce que pour moi, c'est encore une fois une couche d'obligatoire en plus qui pèse donc sur toutes les entreprises de France. Et ce coût-là, il ne pèse pas du tout en Allemagne. Il n'y a pas du tout de cotisation qui monte à 45% du salaire brut en Allemagne. En Allemagne, c'est 19% sur les 70 000 premiers euros, et après, il n'y a plus rien. Donc c'est totalement un modèle contraire.
C'est dans des régimes privés.
C'est totalement un modèle contraire, mais c'est pas obligatoire. Non, c'est pas des régimes obligatoires.
Mais
ça change
tout.
Le fait que ce soit pas obligatoire,
ça change pas tout. Ça change pas tout parce qu'ils les payent quand même.
Non, c'est pas vrai. Il y a plein de petites entreprises qui ne payent pas. C'est le cas de tous les pays autour de nous, sauf nous. Nous, tout le monde paye obligatoirement, et que même les indépendants, les pauvres, ils n'arrêtent pas de râler contre le RSI et contre tout un tas de choses. Tout le monde doit payer beaucoup, énormément, pour la protection sociale française qui est obligatoire. Et ça, c'est la faute au paritarisme. Et ça a été, on le voit avec les retraites Agirc-Arrco, au-delà d'un plafond de sécurité sociale, c'est 25% du salaire à soi seul. Ça n'a pas d'équivalent ailleurs. Et ça, une toute petite entreprise, elle le paye aussi, tout comme elle subit les normes des conventions collectives en matière de minima sociaux, en matière de coûts d'indemnité de départ. Tout ça, c'est quelque chose qui met les standards, si vous voulez, qui sont très confortables pour les entreprises du CAC 40, qui sont insupportables pour des PME.
Véronique Descac.
On pourrait, au travers des retraites complémentaires comme au travers de l'assurance chômage, démontrer le contraire. C'est-à-dire que ce sont des régimes, c'est pas un hasard d'ailleurs s'ils sont négociés entre représentants des salariés et des entreprises, c'est des régimes qui profitent aux salariés comme aux entreprises, qui leur permettent d'être performants économiquement. Je prends l'exemple de l'assurance chômage, puisque vous dites que je sors d'une réunion, on vient de nous démontrer en quoi le fait qu'il existe une assurance chômage dans un pays permet aux entreprises d'avoir une gestion des effectifs, on va dire, plus souple, et du coup lui permet d'ajuster à la conjoncture économique le volume de ses effectifs. Alors qu'on doive être vigilant, la CFDT n'est pas le syndicat du statu quo, qu'on doive être vigilant à cet équilibre qualité-prix, c'est-à-dire à offrir des prestations dont la qualité est en rapport avec le prix que ça coûte. J'en suis tout à fait consciente, et on s'y emploie à chaque instant. Mais typiquement, s'il y a bien un régime qui est entièrement géré par les partenaires sociaux, dans lequel l'État n'intervient pas, qui est l'assurance chômage, on a montré notre capacité à nous adapter à la conjoncture et à continuer à procurer ce qui profite à l'économie tout entière, un revenu de remplacement à un niveau extrêmement correct à des demandeurs d'emploi qui se trouvent privés d'emploi.
Alors justement, sur la question de la gestion de ces organismes que sont l'Agirc, l'Arco, les retraites complémentaires du privé, et puis l'assurance chômage, à savoir l'UNEDIC, je vais revenir vers vous dans un instant, Jean-Charles Simon, mais est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, Jean-Marie Pernaut, que globalement, les instances paritaires, donc, qui gèrent ces organismes-là, font plutôt bien leur travail, qu'elles les gèrent de manière rationnelle, même si on sait qu'il y a quand même régulièrement de forts déficits.
Sur les retraites complémentaires, on n'a pas de déficit, on a des réserves.
Oui, il y a des déficits techniques énormes chaque année. Il y a des déficits techniques annuels énormes chaque année.
Jean-Marie Pernaut,
30 milliards cumulés en 10 ans.
Mais on les a anticipés. On a anticipé l'évolution démographique.
La moitié des réserves.
Non, on a anticipé les évolutions démographiques en faisant des réserves. Parce qu'on savait depuis longtemps qu'il y avait un...
Et maintenant, vous êtes obligé de diminuer les taux de remplacement et d'augmenter les cotisations.
Alors vous aurez remarqué que ce n'est pas Jean-Marie
Pernaut
qui vient de s'exprimer pour l'instant.
Et l'État ne fait pas ça quand il réforme les retraites.
Alors, ce qui est un peu gênant dans votre note, c'est que les excès empêchent de voir des choses avec lesquelles moi je serais... Il y a des choses dans votre note avec lesquelles je suis assez d'accord. Mais vous nous dépeignez une situation calamiteuse, des accords qui n'est pas exacte. Que les régimes sociaux aient des problèmes, comment n'en aurait-il pas? Comment l'UNEDIC pourrait-il bien se porter dans un pays qui, depuis 30 ans, a dépassé la barre des 3 millions de chômeurs, qui frise les 5 à 6 millions? comment voulez-vous que le système de protection sociale ne finisse pas par souffrir de manière dramatique de la situation de l'emploi dans notre pays? Alors, faut arrêter de nous raconter des histoires. Si l'UNEDIC va mal, c'est que on n'arrive pas à descendre en dessous des 3 millions de chômeurs, ou alors de manière très très lente.
Et qu'on a fait le choix d'assumer des déficits pour continuer à bien indemniser des demandeurs d'emploi
pendant
la crise.
Gestion elle-même, moi, qui gérerait mieux, moi? Parce que il y a quand même un souci, vous voulez détruire le paritarisme et la négociation, mais par quoi est-ce que vous remplacez ça? Moi, j'aimerais bien savoir par quoi on remplace. Est-ce que c'est la technocratie d'État qui, alors en matière de déficit, c'est de quoi est fait aussi le monde, ou est-ce que, je ne sais pas, il y a une espèce d'élite sociale au-dessus de tout ça, ou est-ce que c'est le marché qui pourrait,
évidemment,
sa toute puissance, réguler la protection sociale? Je sais que les assurances sont très très attentives à ce que pouvoir développer un marché de la protection sociale, parce que évidemment c'est leur miam-miam de l'avenir. Donc tout ce qui est régulation collective ne freine l'activité de marché des compagnies d'assurance. Mais enfin, vous ferez croire à personne, quand on voit les coûts de gestion des institutions privées de négociation sociale, on parle de l'Agirc-Arrco, mais c'est 2,7% les coûts de gestion. C'est infime.
20% plus que la CNAV,
oui,
qui est quand même pas pourtant un benchmark extraordinaire.
Eh bien si, justement,
la Cour des comptes dit ça.
Vous vous trompez.
C'est 20% de plus que la CNAV.
Qui gère les
retraites de base.
La CNAV
est donc bien mieux gérée que la GIRC et l'ARCO, ce qui est quand même incroyable.
Ça montre que
plus on socialise... Mais alors, qui gérerait mieux, Jean-Charles Simon? C'est l'État qui gérerait mieux pour vous?
Je ne suis pas pour tout libéraliser et tout confier au marché. Je pense qu'en effet, il y a des choses qui seraient mieux gérées par le marché. Quand je regarde la situation de l'assurance chômage, là aussi, je suis quand même très amusé parce que je viens d'entendre. Ça coûte 6,4% du salaire brut pour les salariés des entreprises de France. Il y a des pays autour de nous qui ont un taux de chômage deux fois plus faible, qui, même quand il y a eu la crise et qu'ils ont eu des pics du chômage, n'ont jamais eu besoin de prélever autant sur les salariés, parce qu'effectivement, ils ont fait un choix d'indemnisation qui était très différent, et ils ont 5% de chômage et pas 10%.
Mais cet argent-là qui est prélevé...
Et ça, c'est le cas quand même de trois des grands pays du G7 autour de nous, c'est-à-dire les Royaumes-Unis, les États-Unis et l'Allemagne.
Jean-Charles Simon, cet argent-là qui est prélevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent, il n'est pas redistribué à ceux qui en ont besoin et qui se perd en route?
Bon, par ailleurs, il y a une discussion à faire sur, objectivement, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser 10% de ces cotisations d'assurance chômage pour financer Pôle emploi? Quand on voit le service rendu, je me pose bien des questions. Mais on va dire que c'est pas le problème central.
C'est pas pour financer Pôle emploi, c'est pour accompagner les demandeurs d'emploi. C'est quand même un petit peu différent.
C'est bien pour des missions qui sont à la fois d'ailleurs des missions qui sont très très plein de tracasseries pour les chômeurs. Et donc je pense que c'est tout à fait inutile d'embêter les chômeurs à ce point pour contrôler leur recherche d'emploi, parce que c'est quand même une des missions. Et l'autre, c'est pour le matching entre l'offre et la demande du marché de l'emploi. Et je pense qu'en 2016, il y a bien d'autres outils que Pôle emploi pour le faire. Et que d'ailleurs,
Pôle emploi, toutes
les études qui ont été faites,
fait appel à des opérateurs privés pour certaines de ses missions, il n'a pas été démontré que les opérateurs privés faisaient mieux.
On leur confie les publics les plus en difficulté, et après on dit ils sont moins efficaces que Pôle emploi. C'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ils trouvent leur offre dans leur job quand il y en a, et malheureusement il n'y en a pas assez, ils le trouvent ailleurs. Mais encore une fois, c'est la question. Bien sûr que l'argent est utilisé. L'argent, il est utilisé pour indemniser. Je dis juste qu'il y a des systèmes. Non, mais attendez, la question c'est, est-ce qu'il est légitime et normal d'indemniser de cette façon et à ce point? Et d'ailleurs, je ne critique pas là-dedans que les salariés. Quand j'entends dire on est bien plus performant grâce à une assurance chômage qui indemnise bien, je vois bien que c'est pas le cas. On a 10% de chômage, donc visiblement les entreprises françaises, elles font pas bien leur job. Qu'elles en profitent certaines grâce aux contrats courts qui sont indemnisés, effectivement, elles se cofinancent sur l'assurance chômage, et c'est tout à fait scandaleux à mon avis que le patronat n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus pour réguler ces excès. Ça, c'est vraiment un sujet qui me pose problème. Donc ça veut dire que l'assurance chômage n'est pas bien gérée, ne fonctionne pas bien. Comment se fait-il que l'intermittence, qui devrait être une politique publique culturelle, soit prise en charge par l'assurance chômage, par les seuls salariés et entreprises du secteur privé, et pas du tout par les indépendants et le secteur public?
Mais vous pointez les maladies dans ce régime dont tout le monde convient qu'il faut les traiter. La question de l'intermittence est un sujet de politique publique, tout le monde en convient, et qu'il va falloir finir par traiter avec l'État. Mais pour autant, parce qu'il y a ce sujet, vous ne pouvez pas rejeter aux orties tout le régime d'assurance chômage, qui joue son rôle pour l'économie en maintenant du pouvoir d'achat aux demandeurs d'emploi pendant les périodes de crise, mais qui joue son rôle aussi à la fois d'indemnisation et d'accompagnement des salariés qui ont perdu leur emploi.
Bon, j'ai pas eu le temps d'évoquer la mission parlementaire sur le paritarisme en juin dernier, qui a rendu un rapport qui préconisait notamment de créer un haut conseil de la négociation collective et du paritarisme qui permettrait aux négociations, en tout cas, de se dérouler en dehors, notamment du siège du MEDEF. Je sais pas si vous avez prévu d'y retourner ce soir, Véronique Descaques. Non, la prochaine réunion, ce sera quand d'ailleurs?
Alors, il y a une prochaine réunion, je crois, dans 15 jours. Et mi-février, en tout cas, on se décide avec les employeurs pour savoir si on a assez d'éléments pour
voir la négociation. Et je prends le pari que le patronat va jouer la montre, parce qu'évidemment, son intérêt, c'est d'attendre l'alternance politique.
Ah bah, on a fixé une deadline.
Vous allez peut-être réussir à faire changer d'avis Jean-Charles Simon, j'en doute quand même un petit peu. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jean-Charles Simon, Jean-Marie Pernaud et Véronique Desclac. Discussion que vous pouvez retrouver sur Internet, sur notre site franceculture.fr, à la page du gras à moudre. Demain, notre émission mensuelle en partenariat avec La Croix. Quelle politique étrangère avec la Russie? Nous serons en compagnie d'Emeric Choprade et de Nicolas Tenzer.